Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La corruption, le meilleur terreau du populisme et du rejet de la classe politique. Nous poursuivons aujourd'hui dans Accent d'Europe notre enquête sur les scandales de corruption aux quatre coins du continent, avec l'exemple de la Croatie, dernier pays à avoir rejoint l'Union européenne en 2013, un pays qui n'a pas résolu les dérapages parfois flagrants de sa classe politique. Cet été, le Premier ministre Andrei Plenković a dû se séparer d'une dizaine de ministres, mêlés à plusieurs affaires révélées par la presse. Alors que la Croatie doit prendre la présidence tournante de l'UE au 1er janvier prochain, le pays va devoir s'attaquer à cette plaie. Et tout commence parfois au niveau local, comme nous le montre le reportage de Giovanni Valle à Zagreb.
La capitale de la Croatie a un maire indétrônable. Milan Bandic a été élu pour la première fois l'an 2000. Et depuis, les habitants de Zagreb l'ont réélu presque à chaque consultation. Tomislav Tomašević a pris la tête de l'opposition au sein du conseil municipal il y a 2 ans. Et la longévité de l'édile l'étonne toujours autant.
Milan Bandic est le maire de Zagreb depuis une bonne vingtaine d'années. Il a été arrêté à 2 reprises. Il a fait l'objet de centaines d'accusations et il est actuellement sous le coup d'une enquête judiciaire dans plusieurs affaires. Cela ne l'a pas empêché pourtant de demeurer au pouvoir, à tel point que dans sa ville de Zagreb, nombreux sont les étudiants à n'avoir connu qu'un seul maire.
Ces étudiants se souviennent sûrement du célèbre cas des toilettes à Nord de Milan Bandic, un des scandales les plus connus. En 2009, le maire a demandé à un entrepreneur de confiance de bâtir des toilettes publiques, des toilettes à Nord, facturées 11 000 euros le mètre carré. Des toilettes virtuelles aussi, puisque 10 ans après, elles sont toujours hors service. Mais ce n'est qu'un cas parmi des dizaines d'autres. Tomislav Tomašević est un jeune opposant politique de 37 ans. Il est à la tête du mouvement politique Možemo, un parti progressiste et vert, une sorte de version croate du Podemos espagnol. Selon lui, la corruption est au cœur du pouvoir, mais aussi son corollaire, le clientélisme.
Il y a toujours quelque 140 000 personnes qui votent pour Bandic. Il s'agit d'un grand réseau de clientélisme que le maire a mis en place depuis 20 ans. À l'occasion des derniers procès contre Bandic, on a dévoilé des conversations enregistrées où on entend clairement le maire dicter qui doit être embauché et hurler sur un employé qui n'a pas l'air de comprendre ce qu'il doit faire. Tout ça a été transcrit noir sur blanc.
Le maire de Zagreb a beau résister à toutes les enquêtes et à tous les procès, au sommet de l'État, les certitudes vacillent. Mi-juillet, le premier ministre croate, Andrei Plenković, s'est séparé d'une petite dizaine de ministres, officiellement pour révigorer son équipe après 3 ans de travail.
Dans quelques jours, comme nous l'avons annoncé, nous allons présenter notre remaniement du gouvernement. Nous donnerons un nouveau cadre qui va insuffler un nouvel élan à la composition de l'exécutif.
En réalité, la plupart des ministres démissionnaires faisaient l'objet de scandales de corruption dévoilés par la presse. Un ministre s'était enrichi en vendant des terrains publics alors qu'il était maire d'une ville. Une autre ministre était propriétaire d'une Mercedes non déclarée qu'elle cachait chez sa mère. Enfin, le ministre de l'Agriculture possédait un local non déclaré de 100 mètres carrés. Il s'est défendu en disant qu'il s'agissait d'un simple espace barbecue. Tomislav Klauski est éditorialiste politique au quotidien 24 Sata. Pour lui, ses démissions étaient plutôt des circonstances.
Dans ce cas précis, Plenković a dû prendre en compte plusieurs éléments. D'un côté, la pression de l'opinion publique à cause des scandales. La cote de son parti, le HDZ, a chuté, non seulement lors des élections européennes, mais même après ce scrutin. Et puis, il a dû penser à son image et celle du pays au sein de l'Union européenne à l'heure où la Croatie s'apprête à assumer la présidence de l'UE.
À partir du 1er janvier prochain, la Croatie prendra pour la première fois la présidence tournante de l'Union européenne. Pour son Premier ministre, qui ne cache pas ses ambitions européennes, il s'agit donc de faire le ménage. Mais ce sera au prix d'une vraie révolution historique. Pour Christian Kotarski, professeur de sciences politiques à la faculté de Zagreb, la Croatie n'a jamais connu de véritable alternance politique depuis son indépendance en 1991. Il parle même d'un pays pris en otage.
Un État pris en otage par un parti politique est un État dans lequel quelques partis politiques cherchent à contrôler tous les postes clés des institutions, des agences et des ministères. Concrètement, si on regarde les 11 pays post-socialistes qui ont rejoint l'Union européenne, on s'aperçoit que la Croatie et la Hongrie sont de loin en tête en ce qui concerne ce phénomène.
Depuis les années 90, nous dit Kotarski, les deux principaux partis politiques croates, le HDZ de droite et le SDP de gauche, ont rapporté ensemble 67% de sièges au Parlement de Zagreb. Seule la Hongrie fait pire, avec plus de 70% de sièges contrôlés par uniquement deux partis. Et depuis bientôt 30 ans, les Croates vivent avec ce système.
Une partie des citoyens accepte tout simplement ce système car ils en profitent, tandis qu'une autre partie est plus apathique. On les entend dire qu'il est difficile de trouver du travail dans le secteur privé. Et lorsqu'il y a effectivement une grande instabilité et insécurité dans le secteur privé, le résultat est que les gens préfèrent travailler dans le secteur public.
Aujourd'hui, un travailleur croate sur trois est employé par l'État et cela permet aux partis politiques de maintenir les réseaux clientélistes et le statu quo.
Quand on parle de corruption et de politique, on ne peut s'empêcher de regarder vers le nord de l'Europe et plus précisément vers la Suède, modèle de vertu par excellence. En Suède, les règles sont strictes. Un élu doit rendre compte de ses dépenses à ses électeurs et au-delà des règlements, il doit aussi se conformer à une certaine éthique de sa fonction. Au moindre soupçon, c'est donc la démission. Comme nous le raconte notre correspondante en Suède, Anne-Françoise Hiver, cette extrême rigueur ordonne donc des enquêtes, des démissions, voire même parfois aussi des scandales.
Le plus célèbre porte le nom d'une barre de chocolat, l'affaire Toblerone, devenue le symbole de l'intransigeance suédoise en matière de corruption en politique. Petit rappel des faits, fin 1995, Mona Sahlin, numéro 2 du gouvernement, est la grande favorite pour prendre la direction du Parti social-démocrate quand le scandale éclate. Un journal révèle qu'elle a réglé des courses personnelles avec sa carte de crédit du ministère. La somme a beau avoir été immédiatement remboursée, elle démissionne. En Suède, pas de fonds discrétionnaires pour les députés, un salaire de 6 300 € par mois. Pas de voiture de fonction non plus, les déplacements sont remboursés sur facture. Les élus connaissent les risques. Selon le principe de la transparence institué en 1766, les habitants du royaume peuvent avoir accès à tout document public, y compris les déclarations fiscales de leurs députés ou ministres. C'est ainsi que de nombreuses affaires ont été révélées, des ministres ayant payé au noir leur babysitter, à la députée qui se faisait rembourser le loyer d'un appartement stockholmois appartenant à son mari. Vu de l'étranger, des dérapages presque dérisoires et pourtant qui conduisent souvent à la démission. Car au-delà des règles, il y a la morale et ce code de conduite signé par l'ensemble des présidents de groupes parlementaires qui exige des députés qu'ils s'abstiennent dans leurs fonctions comme dans le privé de ce qui pourrait être légal mais considéré comme contraire à l'éthique ou inapproprié. C'est ainsi qu'en août 2016, la ministre de l'Éducation Aïda Atialik démissionnait quelques heures seulement après avoir été arrêtée au retour d'un concert pour un test d'alcoolémie. Elle était à la limite légale, 0,2 mg d'alcool par litre de sang. La pire erreur de jugement qu'elle ait commise dans sa vie, déclarait-elle le lendemain en annonçant son départ.
Et à 3 mois des élections présidentielles, le Parti social-démocrate au pouvoir en Roumanie est en bien mauvaise position, secoué par des scandales de corruption, soupçonné de vouloir entraver la justice qui justement enquête sur ses affaires. Les Roumains disent désormais ouvertement leur ras-le-bol. Ce fut le cas cet été avec des manifestations en série. Les explications à Bucarest de Benjamin Ribou.
Ce qui au départ ne devait être qu'un fait divers sordide a embrasé la Roumanie cet été. Le meurtre de deux adolescentes dont les appels d'urgence répétés n'ont jamais été entendus par la police a rapidement été interprété par les Roumains comme une énième faillite des institutions du pays, perçue comme corrompue par une grande partie de la population. Critiquées pour leur gestion de la situation, les autorités gouvernementales et policières auraient dû, selon les Roumains, permettre d'éviter le drame. Les conséquences n'ont pas été anodines puisque suite à d'importantes manifestations, le ministre de l'Intérieur a dû démissionner. Sujet particulièrement sensible, la corruption est ce qui, depuis près de 3 ans, fait monter les Roumains au créneau, soit depuis l'arrivée au pouvoir des sociaux-démocrates, formation obnubilée par les réformes du code pénal. Ces derniers mois ressemblent à un cauchemar pour le parti au pouvoir. Après le fiasco des dernières élections européennes, un référendum pour interdire toute amnistie sur les faits de corruption a recueilli une large validation des Roumains. Problème, le Parlement, toujours romain des sociaux-démocrates n'a pas prévu d'inscrire les mesures du référendum dans la loi. Quant au chef du parti démocrate, Liviu Dragnea, il est aujourd'hui en prison pour abus de pouvoir dans une affaire d'emploi fictif. Une demi-surprise alors qu'un rapport du Conseil de l'Europe estimait en juillet que le pays avait fait peu de progrès pour lutter contre la corruption et n'avait pas répondu aux questions liées à la réforme judiciaire controversée.
If you do not understand or speak English very well, you may bring an interpreter with you.
Pas le moins ébranlé par la série de revers qu'il a essuyé au Parlement de Westminster, y compris l'injonction de repousser le Brexit de plusieurs mois, le Premier ministre Boris Johnson dit que son pays sera prêt à quitter l'Europe sans accord au 31 octobre. Sur le terrain, cette certitude se heurte à des données plus mouvantes. On ne peut pas encore parler de Brexodus, mais les Européens sont de plus en plus nombreux à quitter le pays. 150 000 pour les trois premiers mois de l'année contre 100 000 les années précédentes, avec une conséquence, on s'en doute, pour toutes les écoles internationales ou bilingues de Londres, qui se donnent du mal pour ne pas fermer de classe. À Londres, Marie Billon a rencontré des familles françaises qui ont justement fait le choix de quitter la capitale britannique juste avant la rentrée scolaire.
Un dernier regard et Anna s'en va. Cette Française installée à Londres depuis 8 ans vient de rentrer à Paris juste à temps pour que son fils de 7 ans fasse sa rentrée à l'école européenne de Courbevoie. Nous l'avons rencontré dans la City, le quartier financier de Londres, juste avant son départ.
Moi je pense que c'est le bon moment aussi parce que finalement c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, même d'un point de vue politique, ça risque sûrement d'être un no deal. Je me dis, j'ai pas d'attache particulière au UK. Hein. Mais c'est dommage de voir effectivement que tous les expats se posent la question et qu'il y a une bonne partie qui fait le choix de partir ailleurs.
Et justement, dit Anna, ces départs ont déjà eu des conséquences sur sa vie et surtout sur celle de son fils, sur la qualité de l'éducation qui lui était offerte dans son école française de Londres.
Typiquement, mon fils était en CP dans une classe de 30 élèves. Ça fait quand même beaucoup pour une année qui est très importante pour l'apprentissage des bases, notamment tout ce qui est lecture et écriture. Et en fait, ce qu'on nous a expliqué, c'est que comme ils avaient 60 élèves, c'est soit on fait 3 classes de 20, mais dans ce cas-là, il nous faut du personnel en plus, ou on fait 2 classes et on n'augmente pas les frais de scolarité. Ça montre que en fait, le fait qu'il y ait cette pression sur le nombre d'élèves, il fait que les classes sont beaucoup plus compactes.
Anna dit avoir parlé à beaucoup d'amis, d'autres parents d'élèves ou même de collègues qui ont des enfants dans les diverses écoles françaises ou internationales de la capitale. Beaucoup, assure-t-elle, ont choisi l'été 2019 pour rentrer chez eux. Eux-mêmes ou leurs entreprises attendaient de voir ce que donnerait le Brexit, prévu initialement le 31 mars dernier. Il est désormais a priori repoussé au 31 octobre, mais ce n'est pas certain non plus. Face à l'incertitude, ils ont pris les devants.
Il y a un taux de départ, je dirais que peut-être 10%, on peut avoir entre 10 et 15% de gens qui partent. Alors, ils rentrent pas tous en France, hein. Parfois, c'est aussi des gens qui partent vers d'autres destinations.
Bonjour Juliette.
Nous sommes ici au CFBL, une école française bilingue de Londres, située depuis 2011 dans le quartier de Kentish Town, au nord de la capitale. Ici, un élève de CP apprend à écrire les syllabes en français. Un peu plus loin dans le couloir, une autre classe de CP travaille en anglais. Chaque enfant a 2 jours et demi dans une langue et 2 jours et demi dans l'autre. Denis Bittman, le proviseur, assure que son établissement n'a pas souffert des conséquences du Brexit. Comme l'an passé, le CFBL atteint presque son taux de remplissage maximum de 700 élèves.
Ce qui ne veut pas dire que le Brexit n'a pas eu d'impact sur notre établissement. Ce qui est un peu différent cette année par rapport aux autres années, c'est que les gens sont un peu dans l'indécision et donc on a eu un peu plus d'enfants qui avaient été inscrits ou réinscrits qui finalement se sont désistés. On est peut-être à une petite trentaine, quoi.
Plus de départs, donc, mais aussi moins d'arrivées.
On a forcément, je pense, eu moins de demandes cette année que les autres années. Donc au niveau des arrivées extérieures, de gens qui arrivent de France ou d'ailleurs dans le monde pour s'installer à Londres, cette demande-là est un peu en baisse.
C'est effectivement une vraie tendance identifiée par l'Organisme National des Statistiques. Même si les ressortissants de pays fondateurs de l'Union Européenne sont toujours plus nombreux à s'installer au Royaume-Uni qu'à le quitter, la tendance est à la baisse. Ils étaient 218 000 au plus haut en 2015, ils ne sont plus que 59 000 cette année. Mais alors, avec ces déperditions, comment le CFBL peut-il avoir le même nombre d'élèves ?
Ça nous a permis au CFBL d'accueillir des enfants qui peut-être auparavant ne venaient pas au CFBL. Par exemple, issus de filières bilingues ou du système britannique. On a par exemple mis en place un dispositif notamment de français langue de scolarisation pour permettre à ces enfants qui ont été scolarisés plutôt dans la langue anglaise, qui parlent français à la maison avec leurs parents, mais qui n'ont jamais appris en français.
Élargir ses possibilités, c'est aussi ce qu'a fait Blandine Lamaison. Cette Française a ouvert son école de danse itinérante à Londres, la Sylvaine et Wendy Bell School of Dance, en 1975. Elle travaille et fait des classes dans différents établissements de la capitale, en particulier internationaux, et elle a vu le nombre d'inscrits diminuer avec le vote du Brexit en 2016.
On a perdu 20% d'élèves l'année dernière, et ça c'est au sein de l'école de danse que je dirige, dans le centre de Londres. Londres était devenu tellement cher que c'était rempli par les gens qui travaillaient pour l'Europe, les banquiers, les assurances, etc. Français, espagnol, italien. Et tout ça, ça repart.
Alors, Blandine a pris les devants. Elle travaille cette année dans 14 écoles, 3 de plus que l'an dernier. Et adieu prospectus distribué à la main devant les établissements, elle a fait appel à une agence de communication pour faire sa publicité sur les réseaux sociaux.
Dans un royaume enchanté, une petite ligne de basse bien ronde.
Musique. Et on vous retrouve, Vincent Théval, pour la chronique musique. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Avec ce gallois, cet album gallois et zoulou.
Eh oui, en l'occurrence les nouvelles aventures musicales de Gruff Rhys, qui doivent beaucoup aux quelques jours que le gallois a passé en Afrique du Sud pour participer à l'album du collectif Africa Express qu'on a écouté en juillet dans Accent d'Europe. C'est lors de cet enregistrement qu'il rencontre Musi, un producteur sud-africain de musique électronique dont il a apprécie l'originalité des méthodes. De retour à Cardiff, Gruff Rhys sollicite Musi pour remixer un de ses titres et devant le résultat, c'est tout un album qui va bientôt prendre forme selon une routine bien particulière. Chaque matin, Gruff Rhys emmène ses enfants à l'école puis se rend dans le studio d'un ami enregistrer ses nouvelles chansons. Au bout d'une semaine, tous les morceaux sont en boîte et c'est là que Musi rentre en piste pour les remixer et leur donner cette facture délicatement moderne qui enchante tout au long de Peng, sixième album où Gruff Rhys chante en gallois et en zoulou.
Ac er godau'r dŵr i gwmwl bras Lliwi am bylydrodd awr bai, bai, bai Cyn i'r algell a charwydd i bai, bai, bai Cyllna'r canker awr gwai, gwai, gwai Geir i am ffymychodd awr ffrau, 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 ffrau
Sur cette musique de Gruff Rhys que se termine Accent d'Europe, l'émission a été réalisée aujourd'hui par Françoise Groslot. Très bon week-end, à lundi.